On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
L'animateur nature accompagne, encadre, anime des groupes auxquels il fait découvrir des sites naturels et qu'il sensibilise à la protection de la faune et de la flore. Il imagine des activités de découverte ou d'études des milieux naturels. Son objectif, former les enfants à être de futurs éco-citoyens et tenter de faire perdre aux adultes leurs mauvaises habitudes en suscitant chez eux des réflexes écologiques. Emmanuel fait partie de ces animateurs passionnés et passionnants. Pour Carbone Zéro, il nous emmène dans son univers très nature. Salut Manu.
Bonjour.
Alors toi, tu es ?
Animateur nature.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est quoi ? C'est sortir dehors, faire des activités, avoir des aventures. C'est bien marrant. Ça peut être avec les enfants, avec les grands. Et donc, s'il fait beau, c'est tant mieux, quoi.
Donc c'est systématiquement sur le terrain, on va vraiment dehors pour faire de l'animation, ou est-ce qu'on peut faire des choses à l'intérieur aussi ?
Alors tu peux faire de la sensibilisation à l'environnement à l'intérieur, en classe par exemple, avec les élèves et leur instit, et leur montrer différentes activités à propos de la consommation de l'eau et du circuit de l'eau domestique, et donc leur montrer ça. Mais le meilleur pour moi, en tant qu'animateur nature, c'est d'être effectivement dans la nature pour leur montrer ce que c'est que la nature, et pas seulement ce que c'est que la nature, mais comment se comporter dehors, quoi.
Et on est dedans, tu veux qu'on sorte pour faire l'enregistrement ?
Ah, pourquoi pas, avec le chant des oiseaux et les voitures.
Allez, viens, on va dehors. Allez. Donc ça y est, là, on est en condition pour faire une animation en nature. Tu m'en feras peut-être une après avec les brins d'herbe qui sont derrière. On verra s'il y a moyen de faire une animation ici. Mais tu as utilisé un mot sympa, tu as dit sensibilisation à l'environnement. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Alors sensibilisation, c'est la première chose. Moi personnellement, je suis passionné, j'ai l'habitude, et quand j'emmène des gens dehors, je me rends compte qu'ils sont plutôt, ils viennent de la ville, où ils n'ont pas tellement l'habitude, où ils aiment bien se promener, mais ils connaissent pas grand-chose à la nature. Donc la première chose, si tu veux surtout aborder le domaine de l'environnement avec des enfants, c'est leur montrer simplement que c'est sympa d'être dehors, que tiens, il fait beau, on entend des sons, c'est agréable. Donc ça, c'est la sensibilisation, c'est la première étape peut-être qui va les amener après à vouloir mieux connaître ou mieux savoir comment protéger ou comment agir pour l'environnement, pour la nature. En fait, depuis que je suis gosse, je suis tout le temps dehors. Et un jour, tu te dis, bon, bah, j'ai le choix, soit je travaille à l'usine, non. Alors, je vais faire une fac pour peut-être étudier les animaux, mais finalement, tu apprends à disséquer les animaux, non plus. Donc voilà, quoi, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une formation pour être animateur nature. Et c'est mon métier pour le moment, quoi, mais je m'en lasse pas.
Quelles sont les différentes formations qui existent pour devenir animateur ?
Pour être animateur, pour l'écolo et tout ça, tu peux faire le BAFA, t'es pas forcé même, sans BAFA, si t'es motivé, tu peux y aller. Faut trouver une équipe sympa qui va t'emmener à faire une chouette colo. Après, si c'est plus pour le niveau professionnel, ouais, il faut viser un BAPAT ou un BPGEPS pour pouvoir alors vraiment bosser dans une structure, dans un centre, pour quand même avoir pas mal de connaissances, autant dans le domaine purement naturaliste que dans le domaine de la gestion, de la pédagogie, de comment monter une animation. C'est pas seulement savoir reconnaître quelques fleurs qui vont te permettre forcément de rendre ça accessible à un public, quoi. Alors moi j'adore tout ce qu'on peut voir, quoi. Donc sans chercher bien loin, c'est tu te promènes au bord de la route, au bord du chemin, tiens, il y a quelle fleur qui pousse par là, quelle petite bête qui se promène, quel oiseau qui chante. Donc au fur et à mesure, si on est vraiment passionné, vraiment aborder un peu toutes ces choses qu'on peut voir assez facilement sans avoir besoin d'un microscope ou d'un télescope, quoi.
Alors là, on est, bah forcément, vous avez que l'aspect auditif. On va essayer de donner un aspect visuel de l'endroit là où on se retrouve assis avec Manu. Donc on est assis sur une bordure, sur un trottoir, avec un parking, des voitures en face de nous, et puis derrière un petit peu d'herbe, pas grand chose. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire une petite animation avec ce que tu vois là, ou qu'est-ce que t'as envie de partager avec moi ou avec nous ?
Alors, comme animation, là, je sais pas comment on pourrait aborder ça. Avec les gamins, ce que tu pourrais faire, un truc sympa, c'est que tu peux leur faire découvrir deux zones. On a à ma gauche un magnifique parking tout gris du magnifique macadam, et de l'autre côté un simple terrain vague qui est déjà recouvert de petites taches de couleur. Donc peut-être pour leur faire comparer, on peut leur demander un petit peu qu'est-ce que vous voyez à gauche, qu'est-ce que vous voyez à droite, à votre avis où c'est qu'il y a le plus de choses qui vivent. Alors forcément, en observant, on verra bien que c'est à droite. Donc après, pour un petit peu approcher ce qu'il y a à droite, on pourrait leur faire faire une chasse au trésor, c'est-à-dire trouvez-nous quelques objets, un qui soit piquant, hein, pour un petit peu mettre justement des piquants dans l'animation, un petit peu d'aventure. Est-ce que les gamins ils vont oser trouver un truc piquant, mais pas forcément un cactus ou des orties, qu'ils essayent de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais sinon, on pourra aussi trouver un truc doux, un truc bleu, ou quelque chose de rond, quelque chose qui a une forme de spirale. On peut aborder ça de différentes manières. Le but, en fait, c'est de voir que les gamins vont se promener, retrouver eux-mêmes différents éléments pour pouvoir après en discuter tous ensemble. Ça serait le début de l'animation pour les amener un petit peu à observer les différentes choses.
Et quelle est la finalité d'une animation nature, finalement?
Alors, la finalité, c'est déjà d'avoir passé un bon moment. C'est que les enfants, en disant on va dans la nature, effectivement il y a des trucs qui sont piquants, comme je disais avant, des orties par exemple, mais bon, si on se jette pas dedans, ça va quoi, on se pique un petit peu, bon bah c'est des choses qui arrivent, mais surtout que c'est des moments très agréables, et puis que la nature peut nous apporter des bonnes choses à manger, des belles observations. Puis pour un enfant, c'est assez intéressant de découvrir le monde qui l'entoure, hein, comme observer un insecte qui se promène avec souvent des très belles couleurs, des formes assez surprenantes. Donc c'est tout un univers à découvrir, et surtout les enfants sont assez demandeurs de ça, quoi. Donc il faut leur apprendre où sont les dangers, qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment les premiers objectifs, et après, ben, plus si affinité, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui va commencer à s'intéresser un petit peu aux fleurs, qui voudra un petit peu entretenir son jardin, ou quelqu'un qui va faire des sorties après pour observer les oiseaux en migration, par exemple, près de chez lui.
Porte-pêcheur, ben, il est bleu, il est orange, et il a des pattes rouges, voilà.
Oh, il est trop chou.
On l'a vu, on était allé sur le banc, quand on a mangé, après on l'a vu.
Ouais, elle a vu passer.
Moi aussi, je l'ai vu.
Il est moyen.
Il passe en vol à toute vitesse comme un éclair bleu le long des rivières ou des étangs. Il se pose à l'affût sur les branches qui, pendant au-dessus de l'eau, cherchent le dans ses endroits.
Moi, j'ai trouvé le fuligule morion.
Si tu bosses dans une association qui va intervenir en classe, on va plutôt aller apprendre aux enfants un petit peu à connaître le circuit de l'eau. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'environnement à la maison, mais ça peut être aussi, alors ça sera plutôt des différentes associations, ou alors t'as aussi des centres d'éducation à l'environnement, où là ce sera vraiment plus de la biodiversité, un petit peu la nature, qu'est-ce qu'il y a juste à côté. Mais c'est aussi surtout pour les enfants, c'est qu'on va peut-être pas forcément chercher tout de suite trop loin, quoi. On va rester un petit peu dans la découverte, un petit peu par le corps et par les choses qui sont faisables. Par exemple, si tu veux emmener des gamins faire une cabane, tu vas te rendre compte que tu leur apprends pas seulement à faire une cabane, mais aussi un petit peu à gérer un bout de bois dans un groupe. C'est-à-dire, si tu mets ton bout de bois sur l'épaule, s'il est un peu long et que tu fais demi-tour sur toi-même, il a fort chance qu'il aille taper dans la tête du copain. Donc ça, on va essayer d'éviter quand même, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait, l'enfant, il a pas toujours encore certaines notions d'équilibre et de poids. Donc c'est assez rigolo de découvrir qu'en fait, voulant faire une cabane, tu leur apprends déjà un petit peu à gérer des masses différentes et comment organiser une structure pour qu'elle se casse pas la figure.
Quel âge ils ont, les enfants avec lesquels tu fais des sorties?
Alors les gamins, ça dépend, quoi. Les plus jeunes en général c'est 7 ans, voire ça peut être moins, 5-6 ans les maternelles. Et les plus vieux, ils ont 17-18 ans, quoi. Et puis après, j'aimerais bien faire ça maintenant aussi avec des adultes pour leur montrer un petit peu, justement aller un peu plus loin et leur montrer vraiment, tiens, regardez, à côté de chez vous il y a telle fleur qui pousse, faites attention quand vous mettez des pesticides ou des herbicides, parce que vous détruisez des petits milieux naturels, il suffit de quelques fleurs pour faire venir butiner les abeilles.
Est-ce que tu as l'impression que les enfants sont réceptifs à l'éducation à l'environnement? Comment est-ce qu'eux perçoivent le message? Est-ce qu'il y a une retombée, un impact sur les parents?
Alors ça, j'en sais rien, je peux pas l'évaluer, parce que moi je vois des enfants souvent à la semaine, donc après les parents, moi je les vois jamais, donc je ne sais absolument pas ce qui se passe. Certainement que ça influe un petit peu, je crois pas non plus qu'il faille forcément éduquer les enfants à l'environnement pour qu'après ils aillent à la maison pour éduquer leurs parents. Je pense que ce serait bien qu'on reconnaisse aussi que les adultes doivent être responsables et qu'ils se prennent un peu en charge, et pas qu'on demande aux enfants de devenir des petits soldats ou que nous on soit là pour un petit peu jouer là-dessus, quoi. Non, je pense que c'est vraiment chacun à son niveau peut apprendre à apprécier d'être simplement dehors ou de faire des pique-niques. Après, pour les enfants, je pense qu'ils sont réceptifs naturellement, mais tu vois aussi des grandes différences entre un gamin qui est habitué, qui vient de la campagne, un gamin qui va venir de la Méno à Strasbourg et qui découvre vraiment la nature. Alors, ils sont chacun réceptifs à leur manière, mais pour dans le deuxième cas, c'est vraiment une découverte, quelque chose de très très nouveau pour eux. C'est vraiment un grand changement, et donc là, on est vraiment dans les premières étapes, quoi, de comment on se comporte dans la nature, pourquoi il ne faut pas jeter de cailloux, ce genre de choses, et aussi de simplement les laisser découvrir parce qu'ils s'émerveillent vraiment, quoi, quand ils sortent de la ville, là, c'est l'extase en montagne, quoi. Alors là, t'as quelques fleurs bleues qui sont vraiment jolies. Bah, t'as la petite fleur bleue là. Alors ça va être difficile à décrire, hein. C'est une petite Véronique, mais en moment il y en a tout plein dans les jardins. Et ça, par exemple, pour la petite histoire, la Véronique, alors je sais plus exactement, mais elle a deux étamines. Et ça représenterait, soi-disant, le visage de la Vierge, puisque c'était à l'époque les botanistes étaient souvent des curés. Et l'image de la Vierge, en latin, on pouvait dire que c'était l'image vraie, donc Véronicon. Et du coup, ça donne Véronique. Donc, ce prénom, en fait, vient de cette fleur qui représentait la Vierge pour le curé qui l'a observée et qui a donné son nom. Donc, ça, c'est une fleur très très commune. Et puis, on va avoir peut-être des petites guêpes, des petites abeilles sauvages qui vont butiner dedans. À côté, t'as une petite plante de la famille du chou, là, avec quatre pétales. On les appelle des crucifères en général, cette plante-là. Et elles sont assez rigolotes, quoi. Elles sont toutes fines. Et t'as encore une autre sorte de plante, le sénesson, là, les petites plantes jaunes. Enfin voilà, donc là par exemple avec les enfants tu peux rentrer trouver-nous différentes couleurs de fleurs, et là t'as déjà trois couleurs de fleurs, quoi. Après on peut aller plus loin, on peut trouver des fleurs avec ou des plantes avec des feuilles rouges, ça peut être intéressant aussi, quoi. Alors une fleur, si tu regardes une plante, ça c'est intéressant, mais c'est un peu complexe quand même. Tu as une tige. Ah, je vais la cueillir celle-là. Non, faut pas trop cueillir, mais là. C'est pour montrer devant le micro, c'est pratique. Attends, faut que je montre. Alors une fleur, donc t'as une tige comme ça, tu vas avoir une disposition des feuilles. Si tu peux regarder si les feuilles sont l'une en face de l'autre, ou si elles sont disposées en spirale, ça aussi tu peux faire avec les enfants, regarder si elles sont poilues avec une loupe, c'est marrant. Et regardez, alors bah tiens, là on voit une tige, qu'est-ce qu'il y a au bout de la tige? En fait, il y a des espèces de petites feuilles vertes, en fait c'est les sépales. Et dedans il y a une capsule en forme de cœur, ça c'est assez rigolo. Et en fait c'est les graines, c'est le fruit, quoi. Et qu'est-ce qui donne le fruit à l'origine? C'est la fleur. Donc sur la fleur, bah tiens, elle est tombée parce que les Véroniques elles tiennent pas bien. Donc t'as juste la corolle, c'est le petit machin bleu là, ça c'est assez joli. Et non, là-dedans, t'as deux étamines et un pistil quelque part. Alors le pistil, bah, c'est assez rigolo, c'est celui qui va récupérer le pollen, et le pollen, c'est celui qui va être émis par les étamines. Alors on le voit fréquemment sur les pins, les ifs ou ce genre de plantes, si on les secoue, bah, on va avoir une espèce de fumée jaune, de poussière jaune qui s'envole, et ça c'est typiquement le pollen, et c'est ce qui pose problème pour les gens qui sont allergiques au pollen, c'est les pollens qui volent. Pour la plante, l'intérêt, c'est qu'elle va créer des millions de grains de pollen qui vont voler un petit peu n'importe où et qui vont finalement se retrouver sur un pistil. Et si un grain de pollen se retrouve sur un pistil, en fait c'est assez marrant parce qu'il germe. Le grain de pollen, c'est une autre sorte de plante qui pousse dans la plante, dans le pistil, et qui va germer jusqu'à atteindre finalement l'ovule qui est au fond pour finalement le féconder et faire une graine. Donc ça c'est un peu l'histoire des plantes, mais après avec les enfants peut-être trouver un moyen pour expliquer ça de façon plus abordable, ou peut-être pas encore à cet âge-là, quoi.
Et quel est le rôle des insectes là-dedans?
Alors ben, si je parlais juste avant de plantes qui font du pollen qui est transporté par le vent, on parle de plantes théophiles, donc de plantes qui aiment le vent pour se reproduire. Là dans le cas des insectes, on parle souvent des abeilles dont on a besoin pour pouvoir féconder nos plantes pour qu'on ait de beaux légumes, puisque ce sont souvent des fruits qu'on mange, hein, comme la courgette par exemple. Et ben l'insecte, lui, il va être attiré par la fleur, hein, souvent des abeilles ou des guêpes, et en se nourrissant de son nectar, la fleur fait du nectar pour attirer l'insecte. L'insecte, lui, va prendre sur lui du pollen. Donc on parle de plantes entomophiles qui aiment les insectes, et donc ces insectes vont pouvoir se promener de plante en plante et finalement faire des changes de pollen. Donc, si tu regardes juste un petit peu par là-bas sur une des fleurs, tu vois déjà une petite abeille qui est en train de butiner justement, et certainement de se charger de pollen pour après de fleur en fleur échanger les pollens, et donc permettre comment on dirait scientifiquement, un brassage génétique optimal.
Est-ce que vous l'entendez, ce bourdonnement?
Oui.
Ben ça, ce sont les abeilles, hein, qui sont dans les arbres là. Tout le monde l'entend, ce bourdonnement?
Non.
Écoutez bien, ne faites surtout pas de bruit, on l'entend bien. Vous les entendez, là, les abeilles?
Oui. Oui. Elle fait zoom. Non, elle n'entend pas.
Il suffit de regarder à l'air et vous voyez.
Regardez, tiens,
il y en a énormément. Hein, ils sont sur les fleurs.
Bah, monsieur, aussi, je le vois. Ah, et qu'elle veut dire en aille plus.
Des centaines d'abeilles qui sont en train de bourdonner, qui sont en train de butiner. Est-ce qu'elles nous embêtent? Est-ce qu'elles viennent nous embêter?
Non.
Non, pas du tout. Hein. Donc vous voyez, on peut être juste à côté des abeilles sans pour autant risquer de se faire piquer. Hein. De toute façon, les abeilles, c'est très rare quand elles piquent. Les abeilles, si elles piquent, c'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement, puisque quand elles piquent, elles laissent leur dard à l'intérieur de votre peau, et lorsqu'elles s'enlèvent, ouais, il y a le dard qui arrache une partie de leur abdomen, de leur ventre, et elles meurent. Donc, elles ne piquent quasiment jamais, les abeilles. Si elles piquent, c'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement.
Ah, mais c'est bien, au moins, il y aura plus
parce que c'est avec le pollen que les fleurs se reproduisent.
Oui, tout à fait, oui. Si on...
Donc plus d'abeilles, plus de fleurs.
Oui, et puis c'est comme ça aussi qu'on fait les fruits.
Parce que tu distingues en fait la fécondation, c'est-à-dire le moment où le pollen il va rentrer dans l'ovule. Donc là, ça c'est sexuel. Et après, en fait, c'est... comment la graine va se déplacer? Là, t'as un autre problème. Donc là, t'as vraiment pas mal de stratégies, comme tu disais. Là, notre coco qui va flotter, quoi. Donc là, c'est vraiment la graine qui se déplace, quoi. Donc le fruit est déjà fécondé. Après, il y a les autostoppeurs, comme on les appelle. C'est ceux qu'on va manger. Par exemple, si on a le malheur d'avaler quelques pépins de pommes, donc les pépins de pommes constituent la graine, le fruit, donc c'est ça qu'on va transporter dans notre ventre et qu'on va relâcher un petit peu plus loin dans la nature. Et ça marche assez bien comme ça dans la nature. Il me semble que l'éléphant lui-même mange des graines dont il peut faire des fruits, donc il ne peut pas digérer les graines, et ces graines se retrouvent alors dans les crottes de l'éléphant quelque part plus loin avec un merveilleux terreau et qui vont pouvoir se développer comme ça, quoi. Tu as celles qui s'accrochent, qu'on a l'habitude quand tu vas dehors si t'es dans un jardin d'en avoir plein les chaussettes, plein le pantalon, des petites graines qui s'accrochent comme ça. Ça c'est comment on pourrait dire celles qui s'accrochent quoi, pour se déplacer. T'as les pissenlits, les fameux pissenlits qu'on peut souffler dessus pour faire bouger les graines, là c'est par le vent. Donc là c'est vraiment le voyage des graines où, comme surprise, tous ces petits points blancs qui volent au bord de l'eau en été au mois de juin en fait sont les graines de saule et de peupliers quoi. Donc d'immenses arbres en fait qui font de toutes petites graines et potentiellement t'as un arbre qui vole devant les yeux quoi. Le jour où il se posera et pourra germer, t'auras peut-être un grand arbre au bout de 50 ans.
Donc ça, c'est un des moyens qu'a trouvé la graine pour pouvoir disséminer son espèce.
Exactement, c'est une plante, toujours on peut se rappeler qu'elle a ses racines, et une fois qu'elle pousse à son endroit, elle se déplacera plus jamais. Donc elle tourne avec la planète, mais elle se déplace pas, contrairement aux animaux. Donc il faut quand même un moment que, comme on dit que la pomme ne tombe jamais loin du pommier, pourtant il y a quand même des moyens pour les plantes de pouvoir voyager de cette façon-là.
Alors certaines graines, je crois, ont même besoin d'être digérées avant de pouvoir germer.
Exactement, t'as des protections sur certaines graines qui font que une fois mangées, ben c'est vraiment, ça fait partie du processus, quoi. Il faut qu'elles soient consommées pour pouvoir germer. Et ce qui explique aussi que t'as beaucoup de graines qui sont toxiques, en fait. Faut pas manger les pépins de pommes. On le rappellera jamais assez, parce que ça contient des substances proches du cyanure et l'intérêt de la plante, c'est de faire un fruit qui soit comestible, comme ça on va le transporter. Mais pas de manger ses graines, parce que non, ça, c'est privé, quoi. C'est pour la descendance, hein. C'est comme... Alors le printemps, là, c'est formidable. C'est peut-être pas parce que je suis animateur nature, c'est parce que je suis un peu passionné de botanique depuis quelques années. Alors forcément, ça commence à refleurir. J'aime aussi beaucoup les insectes, donc ils commencent à ressortir. Et enfin, ça va enfin être la période où on va pouvoir dormir dehors, faire des balades. Alors ça, c'est plutôt pour ma vie privée, quoi. Après, pour ce qui est de l'animation nature, finalement, il n'y a pas une saison qui est plus intéressante qu'une autre, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dehors. Alors, s'il fait moche, tu marches sur un chemin, il pleut et tout, tu peux te plaindre, mais en fait, si tu regardes, les cailloux, ils sont jolis. Voilà, s'il y a de la neige partout, mais il n'y a pas assez de neige pour faire de la luge, il y a quand même assez de neige toujours pour observer un petit peu les traces des animaux. Alors là, t'es comme dans un livre, quoi. Tu vois tout ce qu'ils ont fait. Tu peux vraiment savoir par où ils sont passés, dans quel ordre. C'est assez rigolo. Avec les enfants, ça peut venir atelier de déduction logique, quoi. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Et à eux de deviner exactement ce qui s'est passé, quel animal est passé par là et qu'est-ce qu'il y a fait. Ensuite, le printemps, comme je disais, ben ouais, c'est la période des chants d'oiseaux, de la floraison, des premières fleurs, des successions comme ça des fleurs. L'été, bah, c'est les vacances, c'est les baignades, c'est les séjours, les nuits à la belle étoile, l'astronomie qui est assez accessible, hein. Même l'astronomie on pourra en faire tout le temps, l'hiver il fait nuit tôt, mais il fait un peu plus froid dehors, c'est moins pratique. Et finalement t'as l'automne, alors l'automne là c'est les collections, quoi, c'est toutes les couleurs, les fruits mûrs que tu peux retrouver, et à chaque saison tu peux faire ta feuille de papier recyclé et incorporer un élément naturel de la saison, enfin il y a toujours quelque chose à faire, hein. Alors t'as les animations, bah, comme je disais avant, je parlais de sensoriel, hein, toujours un petit peu quand tu découvres avec ton corps, je pense que pour un gamin, il n'y a qu'à l'observer, il va courir partout, il va sauter partout, bah, il a besoin d'apprendre à se servir de son corps, c'est normal, quoi. Des fois je pense que les adultes devraient en faire encore un peu autant, et finalement, bah, tu vois, quand on fait du papier recyclé, on a les mains dans l'eau, alors ça c'est super drôle, quoi. T'as les mains dans l'eau, s'il fait beau dehors, c'est vraiment génial. Faire une cabane, bah, c'est leur construction, ils en sont super fiers. Une veillée feu de camp, bah, hop, on était dans la nuit dehors quand même, ou une balade de nuit, mais le feu de camp, il y a tout le côté chanson, c'est sympa, on rigole, on fait des blagues, des petites danses tous ensemble. Le but du jeu, c'est quand même pas forcément de viser des connaissances trop précises, trop pointues. Dans tous les cas, c'est de s'amuser, quoi. C'est de faire passer un bon moment aux enfants et qu'ils apprennent aussi un peu par eux-mêmes, quoi. On est vraiment un complément, je pense, à l'éducation nationale dans ce qu'on fait.
Alors, un animal vraiment remarquable en Alsace, bien sûr, c'est le grand hamster qui fait tellement débat, justement, avec le grand contournement ouest de Strasbourg. Alors ça, c'est le grand sujet polémique du moment. Mais effectivement, cette espèce qui n'est pas unique en Europe, en Alsace, hein, elle est présente en Allemagne, en Pologne, mais en France, c'est effectivement bien le seul endroit où on en trouve encore, c'est dans quelques endroits, quelques villages alsaciens, quoi. Donc ça, c'est une espèce qui risque de disparaître d'ici pas longtemps. Donc en général, une espèce devient intéressante à partir du moment où elle va disparaître, ce qui est assez malheureux quand même, quoi.
Monsieur Baumgart, spécialiste du grand hamster en Alsace.
Le grand hamster, donc pour l'évoquer, c'est donc ce petit, c'est un mammifère rongeur, un petit rongeur. C'est un cousin, lointain cousin du hamster doré, hein, qui est bien connu des enfants, hein, qui l'ont chez eux. Et cet animal est chez nous, en Alsace, à la limite ouest de sa répartition, puisque son aire principale de répartition, c'est l'est de l'Europe, l'Europe centrale, hein, si je puis résumer de manière très générale. C'est l'Europe centrale. Et il est venu un petit peu sur, au temps préhistorique. On a des témoignages, les géologues et ceux qui étudient la faune du Quaternaire, hein, ont effectivement, Wernert notamment, un grand géologue de Strasbourgeois, a trouvé des restes de hamsters dans la région strasbourgeoise. Et ces restes dataient de dizaines de milliers d'années. Et donc le hamster, l'espèce appelée en latin Cricetus cricetus, est en Alsace depuis des dizaines de milliers d'années.
Mais sinon, effectivement, je ne sais pas à quel degré on peut s'intéresser à quel animal ou à quelle plante. Et je pense que chaque milieu a un petit peu ses petites raretés qu'il faut savoir trouver. Donc après, c'est un petit peu le jeu de faire un petit peu la distinction entre les différentes espèces pour trouver celle qui sera la plus rare, qu'on aura le plus de chances d'avoir trouvé qu'une autre. Mais finalement, observer une mésange qui est un oiseau tout à fait commun, c'est toujours un vrai petit bonheur, tellement c'est plein de vie et rigolo comme oiseau, quoi.
Alors on va faire un petit jeu avec l'auditeur, là on va faire 5 secondes ou 10 secondes de silence et on va essayer de voir ce qu'on peut entendre. Donc il y aura sûrement peut-être des bruits naturels, des bruits qui le sont un petit peu moins, et puis on va décrypter ce qu'on entend là. Donc allez hop, c'est parti, 10 secondes de silence. Alors, qu'est-ce que t'as entendu?
Alors il me semble avoir entendu des camions, une voiture, un brinque-ballet dans la rue de la Bellemire. Et complètement à l'opposé, il y a un oiseau qui s'agite un petit peu. Là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Comme ça, il fait ses petites notes aiguës. Et par contre, il y a un merle aussi qui chante. Alors ça, c'est chouette, parce que le merle, ça chante vraiment bien.
Fais-moi le chant du merle.
À moi, faire le chant du merle, ça va être difficile. Peut-être écouter. Il fait un truc du genre... Mais un peu plus grave, plus rond son son. C'est assez difficile à imiter les oiseaux quand même, si on veut le faire vraiment bien, quoi.
La mésange.
La mésange. Alors elle nous fait plutôt des un son assez clair comme ça, très joyeuse comme ça, hein, impression. Faut s'imaginer un petit peu la tête des oiseaux sans les voir et on a toujours l'impression que c'est des petits bonhommes assez joyeux, des petits lutins qui dansent sur leurs branches et avec leur chapeau et leur canne comme ça. C'est moi.
Ils sont souvent plus faciles à entendre qu'observer d'ailleurs.
La plupart des oiseaux sont extrêmement plus faciles à entendre qu'à observer, c'est tout à fait exact. Après, tu as des oiseaux comme la fauvette ou le rossignol qui sont du genre à faire un tapage pas permis. Enfin, si, c'est quand même joli, quoi, leur chant, mais ils font un bruit incroyable et tu les verras jamais, ou avec un peu de chance, parce qu'ils ont vraiment tendance à se planquer, quoi.
Tu l'as vu ou tu l'as entendu?
Je l'ai que entendu, j'ai pas réussi à le voir. Habit alimentation? Comment dire?
C'est quoi, taille, bec, couleur, particularité?
Le mâle est mâle. Habitat et alimentation.
Ah ouais.
Couleur, le mâle a le dos marron. Rayé de noir. Le dessus de la tête et l'extrémité du corps gris. La gorge et le plastron sont noirs. Le ventre est gris très clair. La femelle est plus uniformément marron.
Quoi, la plus bavarde?
Ouais, c'est Camille, la plus bavarde. Parce qu'elle fait que de bavarder.
Et moi aussi.
Alors pour les sorties nature avec les enfants, il y a différentes écoles. Il y a ceux qui partent avec 5 sacs de matériel parce qu'il faut un petit peu tout prévoir, il faut le maximum. Et t'as ceux, moi je suis plutôt de cette école-là, on emmène le minimum. Alors le minimum ça va être quoi? Si tu fais une sortie trace indice, il faut avoir du plâtre parce que c'est quand même rigolo de faire un moulage d'empreintes de plâtre avec les enfants. un bout de ficelle. Avec la ficelle, il y a toujours moyen de faire quelque chose, quoi. Surtout si on fait une cabane ou quelque chose, ou un petit bricolage, c'est toujours bienvenu. Et des bandeaux. Des bandeaux pourquoi ? Ben, des bandeaux de couleurs pour faire différentes équipes si on veut faire un jeu. Ou alors pour bander les yeux des enfants, puisque découverte, justement, comme on dit, sensorielle, un petit peu un moment, on va les priver de la vue, quoi. Les priver de la vue, en fait, c'est leur faire redécouvrir un petit peu qu'ils ont des oreilles. Justement, on entend très bien. Et ça, c'est assez rigolo, quoi. Et puis, c'est une découverte aussi, c'est assez amusant, quoi. Et c'est le genre de moment où tu te rends compte à force qu'il ne faut pas forcément exiger un silence absolu de la part des enfants, parce qu'ils sont tellement dans la découverte et dans l'excitation qu'ils n'arrivent pas à la boucler, tout simplement, quoi. Et il faut qu'ils expriment leurs sentiments. Et quand tu fais faire ça à des adultes qui sont peut-être même des professionnels de l'animation, qui demandent souvent aux enfants de se taire, ils se rendent compte que finalement c'est pas possible de se taire. Donc ça, c'est assez rigolo, quoi. Mais les bandeaux, ouais, c'est un truc qui est assez pratique, quoi. Après, ben pourquoi pas une petite boîte pour mettre les trésors, ou même des boîtes de pellicule photo que tu vas donner aux enfants pour qu'ils y fassent un parfum. Alors parfum, c'est un truc assez rigolo. Ils doivent prendre des plantes, les mélanger dans la boîte et fabriquer un parfum, quoi, avec les plantes qui sentent le meilleur quand même, quoi. Ça, c'est pour une animation de base. Après, si tu veux plus axer sur différents trucs, tu auras des fiches avec toi, des petites boîtes ou des loupes pour observer les animaux de la mare. Il va te falloir des épuisettes. Donc après, c'est aussi en fonction de l'animation que tu veux faire, quoi. Mais pour une sortie simple dans la nature comme ça, une première approche, une sensibilisation, là, je pense que c'est vraiment l'échange qu'il peut y avoir entre les gens et la nature qui est intéressant, quoi.
Et qu'est-ce qu'on fait dans une maison de la nature ?
On apprend des choses, apprend à les chaînes alimentaires, quelles plantes comestibles,
choses comme ça.
Par exemple, il y a un végétal, après la limace va manger le végétal.
Et ainsi de suite.
Et le hérisson va manger la limace et le renard va manger l'hérisson.
Non, le faucon.
Ben, en fait, c'est pas vraiment une chaîne alimentaire, mais hier, on est allé visiter une ferme bio le matin, et l'après-midi, on est allé visiter une ferme où ils faisaient de l'élevage, une ferme laitière où il avait plein de vaches et des génisses.
Okay. Et le bio, c'est qui peut expliquer ce que c'est que le bio?
C'est naturel.
Fait maison, quoi.
C'est des trucs sans produits.
Ben, on n'utilise pas de produits chimiques, c'est fait maison. On n'utilise pas non plus, parfois, le bio, c'est fait à la main. Il y a des légumes aussi, mais c'est pas traité, les mauvaises herbes sont enlevées à la main.
Voilà. C'est pas bien les produits chimiques ?
Non, ça pollue la planète,
c'est pas bon
ça pour pollue la nappe phréatique.
Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour moins polluer la planète ?
Bah, un geste, hein.
Que bon, chacun fasse un geste. Éviter les produits chimiques.
Et qu'on jette des papiers dans la nature, c'est pas bien.
Et en fait, dans le Nutella, il y a comment ça s'appelle, l'huile de palme. En fait, ça vient de très loin. Et il y a des gens qui travaillent. Et ben, l'huile de palme, elle est pas bonne pour la santé. Et ça pollue beaucoup la planète.
Maintenant, chacun va penser à un geste. Vous allez tous me donner un geste pour faire du bien pour la planète, d'accord ?
Vas-y. Faut ramasser les trucs qui polluent.
Faut plus jeter de papier par terre.
Ne pas jeter les chewing-gums par terre.
Acheter que des produits bio.
Acheter du locaux et éviter voilà, à la place, en fait, à la ferme, à la place d'en acheter par exemple au magasin, on peut plutôt aller à la ferme, parce que les agriculteurs, ben ils dépensent pas beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent mais ils gagnent pas beaucoup,
que la moitié, en fait,
c'est que la moitié, parce que les gens qui 27 centimes ils le donnent au magasin.
Si tu étais une fleur, tu serais quoi?
Alors, je me vois pas tellement fleur comme ça. Si j'étais une fleur, oh, c'est difficile à dire ça, je me verrais plutôt les fleurs carnivores quand même.
Un oiseau, tu serais quoi?
Un oiseau? Ah, pareil, c'est difficile à dire, parce que n'empêche que plus on les connaît, plus ils ont la classe, un peu tous, quoi. Donc, si j'étais enfant et que j'étais un oiseau, je serais quand même le faucon pèlerin, parce qu'il va super vite.
Un mammifère.
Une baleine, ah ouais.
Un insecte.
Ah ouais, alors c'est un petit insecte vert, ça s'appelle la cicendelle, moi je l'appelle la petite fée verte, parce que c'est quand même le coléoptère qui allie l'agilité de la blatte avec l'envol subtil et rapide de la mouche. Ah, si j'étais une pierre, hein. Quelle pierre je pourrais être? Une pierre volcanique, ouais. Ouais, ça me brancherait bien, une pierre volcanique.
On inspire, on expire, on respire, on souffle,
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.